C'est ça, pas comme un chagrin, mais c'est ça effectivement plus difficile encore. Alors, n'oubliez pas ce que vous avez dit la dernière fois, que le fait que nous commençons tout de suite par le point de vue de la dynamique. Il faut bien dire le pourquoi de ce début. Nous verrons pleinement vos têtes, hein. Mais il faut bien comprendre que la dynamique n'est pas la physique. Nous avons déjà distingué la physique de l'Ubia, c'est-à-dire le lien qui existe entre les deux, la physique principe immanent du mouvement, l'Ubia principe immanent de ce qui est, donc nous sommes en face de principes différents, la physique principe immanent du venir et l'Ubia principe immanent de ce qui est. La dynamique à quelque chose de parent avec la physique, puisque c'est aussi un arc, c'est aussi arché. C'est un principe. Et nous avons pas seulement trois principes. C'est très curieux de voir ces trois d'esprit sont de fait chevaux. La dynamique est un principe. C'est un principe de mouvement. Aristote dit, on d'abord la dynamique au sens fondamental. Et la dynamique, c'est le principe de mouvement. Comme la physique, c'est le principe de mouvement. Quelle différence entre les deux, c'est que la physique, c'est principe de mouvement dans l'immanence parfaite. Ici, ce n'est pas l'immanence, c'est l'autre. Je crois que c'est très important de dire ça. Parce qu'on peut saisir l'arc qu'à partir de l'autre. Alors, c'est très curieux de voir que tout de suite, Aristote souligne que, de fait, la dynamique est principe de mouvement, mais à l'égard de l'autre, comme autre, ou du même en tant qu'autre. Donc, à l'intérieur de la dynamique, il y aura nécessairement cet autre aspect qu'il y a une activité sur un autre. Tandis qu'au contraire, la physique devient en permanence la seule chose. N'oublions pas que le point de vue de Moudia, transpose dans le domaine de l'être ce qui était dans le domaine de vous. Avec le sien, on devient en permanence. On devient absolument en permanence, donc on devient dans le principe selon la forme. Le premier selon la forme de l'homme en humain. Donc, c'est la forme. Et c'est pour ça que je vous ai dit, nous ne pouvons pas nous servir de l'Ubia pour découvrir le point de vue de l'énergie. On ne peut pas se servir de l'Ubia, on ne peut pas prolonger l'Ubia pour découvrir l'art. Mais nous avons vu que le tour de l'Ubia nous posait le problème de l'art et de la puissance. Le premier problème de la capitance est posé par l'oubli, par le point de vue du pauvre, du comment de l'oubli. Puisque nous voyons que certaines substances sont en puissance et d'autres sont en acte. Et donc, c'est le pauvre de l'oubli qui, d'une certaine manière, pose le problème de l'acte de la puissance. Mais nous ne pouvons pas aboutir par le point de vue de l'oubli pour l'acte. D'où un point de vue d'une nouvelle voie. C'est la voie de la dynamique. La voie de la dynamique qui est apparentée mais qui n'est pas la folie. Et c'est très curieux de voir que toute la différence qui existe entre la dynamique et la folie, parce que je crois que ça c'est très très important à saisir, vous savez, Aristote avait, comme toujours, des inductions d'Aristote reposent toujours et sont toujours extrêmement difficiles à saisir, parce qu'Aristote ne le dit pas, un modèle où il écrit en marge, cette attention ici nous sommes au point de départ d'une induction. Alors, on verrait, Aristote ne le dit pas. Alors, pour saisir ce que c'est la physique, Aristote était parti de la différence entre l'œuvre d'art, l'œuvre artistique, art et texte, et puis le point de vue de l'œuvre naturelle. Et c'est toujours cette différence entre les deux qui le fait poser la physique comme principe immanent des œuvres naturelles, c'est-à-dire comme principe immanent du mouvement naturel. Il y a un mouvement artistique et un mouvement naturel. Bon, il y a deux espèces de mouvements. Il y a un mouvement artistique, un mouvement naturel. Une fois que vous distinguez qu'il y a deux espèces de mouvements, un mouvement artistique, un mouvement naturel, vous pouvez poser deux principes à ce mouvement. Quand il s'agit d'un mouvement naturel, le principe est immanent. Quand il s'agit du principe du mouvement artificiel, le principe n'est plus immanent. Le principe est extérieur. Le principe est extraterrestre qui est créé au point de vue de l'art. On nous pose la nature et l'art. La grande opposition constante. Avec la dynamique, nous retrouvons une intégration de l'art, que l'art est une certaine dynamique. Mais Aristote ne parle pas de l'art. Il parle de la dynamique. Pourquoi? Parce que la dynamique, c'est quelque chose de beaucoup plus radical que l'art. L'art est une des modalités. La dynamique se dit de multiples manières, l'art est une des modalités. Mais on ne peut pas identifier dynamique et art. Parce qu'il n'y a pas un lien entre physique et dynamique. Il y a une dynamique naturelle. Il y a une dynamique qui, de fait, s'enracine directement dans la nature. Et il y a une dynamique qui s'enracine dans l'esprit, par le point de vue de l'âme. Et donc, on va essayer de saisir quelque chose qui est plus radical que l'âme, et qui pourtant n'est pas la vie. Et qui est apparenté entre les deux. Et qui maintient ici la différence entre le point de vue d'un principe de mouvement qui n'est pas seulement immanent, mais qui est aussi autre. Vous voyez, c'est ça sur laquelle il faut réfléchir. Hein. Si nous voulons essayer de comprendre un peu ce qu'Aristote nous dit ici, c'est d'essayer de réfléchir sur ces termes clés dans l'aristotélisme, où il y a une dynamique. Et la dynamique va nous permettre de saisir l'art, de voir ça. C'est pas à travers la dynamique qu'on va saisir aujourd'hui de l'art. Alors on va essayer, les premiers chapitres d'Aristote sont un exercice pour essayer de saisir toute la richesse de la dynamique. Cette vie de multiples manières. Vous voyez la différence. La nature, quand Aristote voit la nature, il ne croit pas du tout la nature comme ça. C'est là que c'est très, très curieux à voir les développements d'Aristote. Ils ne sont pas du tout faits du même sens. Le développement de la nature est un développement en profondeur où l'on essaie de saisir la dualité nature, matière et forme. C'est-à-dire que c'est ça le grand point d'Aristote. Il s'agit de saisir dans la nature la distinction forme, matière. Et le couple matière et forme est lié à la nature. Intrinsèquement lié à tout. Donc c'est une division qui demande à partir de la vie. Ne transposons pas trop vite la distinction matière et forme à autre chose. Vous voyez, on peut tout de suite le voir au niveau de l'art, c'est évident, on peut le voir aussi au niveau du quotidien, mais il faut faire trop attention. Il faut tout de suite se rappeler que matière et forme est une division premièrement liée à la vie. Et qui est premièrement liée donc à la physique, principe immanent du mouvement. C'est très important, parce que vous voyez, autrement on dira tout l'aristotélisme, tout l'aristotélisme, c'est la distinction de la matière et de la forme. Mais non, c'est un aspect d'aristotélisme. C'est l'aristotélisme de la physique. C'est pas plus que ça. Alors, c'est ce qui est très important, parce que la physique est première dans l'ordre génétique. Pour nous, c'est la première partie de la philosophie que nous découvrons. Et donc, si c'est la première partie de la philosophie que nous découvrons, d'une certaine manière, elle conditionne tout le reste, le premier dans l'ordre génétique conditionne tout le reste. Mais ça ne détermine pas le reste. Donc, ne disons pas que distinction matière et forme qui conditionne d'une certaine manière toute notre philosophie. Bien conditionne, nous sommes à ceux qui, que ces quatre sont les forces, c'est selon la forme que nous saisissons le bien. Mais si ça conditionne toute la philosophie, ça ne détermine pas toute la philosophie. Donc, cette distinction matière et forme ne va pas réintroduire dans le bien. Elle peut réintroduire dans le bien sous le point de vue du corps. Mais pas directement, donc. Elle se réintroduit dans le bien en tant que l'oubia que nous constatons est une oubia qui est corruptible ou incorruptible. C'est une oubia qui est liée au devenir. C'est une oubia donc qui est liée dans son monde existentiel au devenir. Alors, c'est lié au cause. Alors, dès que vous regardez l'oubia par le point de vue du cause, vous pouvez retrouver distinction de la téléphone. Mais ce n'est pas direct. Vous voyez ? Si vous télescopez le point de vue du cause et vous regardez l'oubia justement dans la tête, et que vous voyez la distinction de la matière et la forme à l'intérieur du bien, vous ne comprenez plus ce que c'est bien. Parce que vous transposez une distinction qui est vraie au niveau du venir, au niveau de l'être. Tandis que dès que je suis au niveau du cause, l'oubia que je vois constater, que je vois réaliser autour de moi, est une oubia qui est dans le devenir. Donc si c'est une oubia qui est dans le devenir, elle assume la physique, et nous retrouvons la matière et la forme. Et c'est très subtil comme manière de bien saisir les différences. Et alors nous avons toujours la clé de la question du qui est-ce qui et le point de vue de la question du pour. Ce sont des distinctions absolument fondamentales dans l'Aristote. Ça se retrouve tout le temps. Alors, donc, la physique se distingue en matière et forme. Nous allons essayer maintenant, très rapidement, dans ce début du livre, c'est ça, voir toutes les divisions de la physique. Comment la dynamique se divise? Alors, c'est très difficile. Parce que la dynamique, au niveau des catégories, au niveau des catégories, qu'est-ce que c'est la dynamique? La dynamique, au niveau des catégories, c'est une qualité. C'est une qualité. Si vous cherchez une catégorie d'Aristote, et vous cherchez ce que c'est que la dynamique, parmi les qualités, il y a la dynamique. Donc c'est de l'ordre de la qualité. La qualité, c'est de l'ordre accidentel, comparativement à un mouvement à l'époque, c'est de l'ordre accidentel. L'Aristote va pas tout regarder, c'est-à-dire une qualité, c'est-à-dire comme une catégorie. Il va regarder la dynamique comme une détermination particulière qui, d'une certaine manière, joue le rôle au principe. Donc il donne à la dynamique une valeur métaphysique et pas une valeur logique. Deux catégories particulières. Mais il faut bien se rappeler que la dynamique est d'une certaine manière une des catégories particulières à qualité. Quand vous regardez par la catégorie qualité, comparativement aux autres catégories, vous voyez que dans le livre des catégories, quand Aristote parle de la qualité, il y a quelque chose tout à fait particulière, c'est que immédiatement la qualité se divise en quatre. Et Aristote n'a absolument pas pour les autres catégories. Autrement dit, le propre de la qualité, c'est immédiatement d'impliquer une très grande diversité. Puisque ceux qui font de la différence des physiques, c'est la qualité. Et que la différence des physiques est une, c'est justement ce qui se fait. La qualité est essentiellement quelque chose qui va impliquer une diversité. Et je partais pour cela que nous savons pas de cette recherche de la qualité au plan métaphysique, qu'est-ce que c'est que la qualité au plan métaphysique, au plan de la dynamique. Et c'est la qualité qui va nous conduire à l'acte métaphysique. Ce n'est pas la substance, mais c'est la qualité. Et alors la qualité va être vue immédiatement dans sa très grande diversité. On va voir toutes les modalités particulières de la dynamique. Et par là, progressivement, on va aboutir à la recherche de l'acte. Donc je dis ça, c'est pour avoir un point d'interrogation. Autrement, on se demande pourquoi on peut faire ça. Il parle de l'analyse, ça n'a rien à voir au point de départ avec le point de vue de l'acte. Et puis les analyses sont traduites en français puissantes, encore beaucoup moins bien informées. Et ça, c'est très bien. Ici, vous traduisez une analyse puissante. Et vous parlez de l'acte. Comment la puissance va répondre à l'acte, hein? Alors que ça ne va plus du tout. Tandis que si vous prenez une analyse qualité, vous voyez que la dynamique c'est une énergie. En termes de la limite, on devrait traduire énergie. Et c'est du reste pour ça que la limite se met acte d'énergie. Parce que c'est lié à la dynamique. La dynamique est une source d'énergie. Ça, c'est une source d'énergie, c'est une source d'efficacité, c'est une source de réalisation, c'est une source qui permet, c'est une source jaillissante, la dynamique. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Puissance, ça traduit très mal. C'est ça qui se traduit une dynamique puissante. On ne doit pas nous traduire une dynamique puissante. Virtus en latin. L'onamie, c'est virtus. Donc c'est une source d'efficacité, une source d'efficience, une source de mouvement. Mais une source qui n'est pas la nature, qui n'est pas au niveau substantiel. C'est au niveau des opérations accidentelles, et non pas au niveau des opérations substantielles. De la l'onamie, il n'y aura jamais une génération. De la nature, il n'y aura une génération. Vous comprenez ? Il n'y aura pas. Il n'y a pas de mouvement substantiel à partir de l'analyse. À partir de l'analyse, il y a toujours un mouvement accidentel. Donc, au niveau détermination de l'être, c'est un accident. Mais comme il est regardé ici comme une détermination particulière, on va identifier toute la force. Et c'est pour ça que je crois que c'est cette espèce de classement très curieux qui se déroule un petit peu au point de départ. Donc, nous l'avons vu la dernière fois, Aristote s'est dit que les diversités de la dynamique, en essayant de définir le point de vue de la faculté qu'il y avait de pâtir et d'agir. La dynamique, c'est ça, c'est ce qui permet d'agir et de pâtir. Aristote avait vu que lorsqu'il s'agit du pâtre, du bonnet pâle et du pâtère, donc le fait de faire, de pâtir, ça peut encore être fait avec beauté ou sans beauté, c'est encore une distinction. Et là, on voit bien que c'est l'aspect de la qualité. Dans l'ordre de la qualité, c'est pas différent du tout que la beauté soit là ou soit pas là. Et c'est très important dans l'ordre de la qualité. Alors qu'on n'a jamais distingué Lousia belle ou Lousia pas belle, parce que ça n'a aucune signification de mettre le calot à côté de Lousia. Les calots à côté de Lousia, pas du tout. Les calots à côté de Fouzi, ça va pas du tout. Tandis que vous pouvez mettre le point des calots à partir de la dynamique. Quand la dynamique est source d'énergie, comme la source de l'analyse est en fonction du faire et du bâtir, on comprend très bien que le point de vue du faire et du bâtir peut se faire avec beauté. Beauté, en prenant beauté dans le sens grec, le calot. C'est beaucoup plus que notre mot beau, c'est beaucoup plus fort. C'est lié à une qualité ontologique de perfection. D'agir avec perfection, agir calot. Aristote le dit très fort quand il parle dans l'éthique de l'aspect de la magnanimité,
il parle de l'action que je fais. Le magnanime agit toujours avec beauté, parce qu'il agit grandement. Oui, c'est lié à la grandeur. Le cadeau, c'est lié à la grandeur. Et donc, une action qui est faite avec beauté, ou une manière de bâtir, on peut bâtir avec beauté, ça, c'est une manière justement de, qui implique une certaine grandeur. Donc, ça implique une certaine perfection. C'est une idée de perfection. Alors, on comprend très bien comment tout la vie, c'est lié à l'idée de perfection. Et c'est pour ça que ça fait une nouvelle distinction. Quand on dit une nouvelle distinction, cette idée de cadeau vient être à l'intérieur de l'aspect de la même distinction. Après avoir fait la distinction, Aristote dit, d'une certaine manière, c'est la même faculté. C'est pourtant le même. Donc, il y a une dynamique active, une dynamique passive. Une dynamique capable d'agir sur un autre, une dynamique capable de se laisser influencer par un autre. C'est encore une dynamique, se laisser influencer par un autre. Être capable d'être influencé par un autre, c'est encore une dynamique. C'est encore une source d'énergie, parce que c'est capable de capter l'énergie de l'autre, de laisser agir un autre sur soi. Donc, c'est encore une dynamique. Et alors, on peut le faire de diverses manières, on peut le faire grandement, uniquement, chichement, ou avec grandeur, vous voyez. Et alors, il montre que donc, il y a là une certaine unité, et cependant, il y a une diversité. Après avoir vu ces deux aspects, ces quatre aspects eux-mêmes, on va dire que c'est la quatre, nous avons alors les oppositions, les privations. Mais il y a la dynamique. Il n'y a pas la privation du côté, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas la privation du côté du sens. On a parti après l'Ousia, l'Ousia. Ça n'existe pas l'Ousia. La non-Ousia. La non-Ousia, c'est le néant pour faire comprendre l'Ousia. On ne met pas la privation du côté. Tandis qu'on met la privation du côté de la dynamique. C'est très important, parce que ça nous fait bien comprendre que nous sommes au niveau de la qualité. Au niveau de la qualité, il y a l'activation. La qualité appelle immédiatement l'activation. Alors que la substance et la conduite n'appellent pas l'activation. Mais si on veut comprendre parfaitement ce que c'est que la qualité, il faut regarder l'activation. Nous ne comprenons pas parfaitement ce que c'est que la qualité sans regarder ce que c'est que l'activation. Tandis que nous n'avons pas besoin de regarder l'activation pour connaître ce qu'il y a. Nous n'avons pas besoin de regarder l'activation pour connaître. Une prophétie de connaissance, comme on dit, il secoue. Vraiment, ce qui le considère de toutes les manières. Oui, vous en voulez dire ça. Donc, après avoir vu ce que c'est que la humanité, il voit ce que c'est la humanité. Et ce que représente le point de vue de l'impossible, qui sont la privation contraire à cette puissance. Alors, il montre que les privations peuvent être multiples, donc il rend là encore une possibilité de regarder la privation qui est maintenant absolue et la privation qui relève. Donc, nous avons là deux nouvelles sources de vision. Il y a quatre dynamiques, il y aura nécessairement quatre privations, et quand les privations peuvent être prises absolues ou selon les temps, vous allez encore doubler ça. Oui, comme ça c'est un éventail. Vous êtes des divisions, hein. Ça c'est ça, c'est très facile à faire, et on voit tout de suite toutes les divisions qui peuvent émerger. Après, Aristote va encore pousser son enquête plus loin, la dynamique qualité s'enracine toujours dans un sujet. Une qualité ne peut être comprise parfaitement que relative à son sujet. Donc la dynamique va être liée à la conduite, mais elle va être liée à la conduite, à l'évitement de l'art, vous voyez, d'une certaine manière. Parce que je pourrais regarder cette dynamique uniquement du côté de son efficacité. Ici, je regarde la dynamique, non plus dans cette vision formelle, mais dans son enracinement. Et alors je dirais, il y a des dynamiques, vous voyez, il y a la dynamique dans l'être inanimé et dans l'être animé. C'est encore une vision plus matérielle, celle-là, c'est un grand sujet. Il y aura donc des puissances rationnelles et des puissances irrationnelles. Parce que celles qui sont dans les êtres animés peuvent être dans l'âme qui peut être de l'homme. Vous aurez donc la nouvelle distinction à l'intérieur de la dynamique rationnelle et la dynamique irrationnelle. Vous voyez ? Alors il faudrait se poser la question pourquoi Aristote fait-il intervenir ces distinctions ? Tandis qu'au contraire, la puissance mais non d'une manière semblable. Elle appartient aux deux, mais sous un certain aspect, elle est plus d'un côté que de l'autre. Donc, ces sciences poétiques considèrent les sciences poétiques, c'est-à-dire ces sciences rationnelles, ces sciences capables de réaliser quelque chose grâce au logos, ces sciences poétiques considèrent les deux contraires. Mais à l'égard de l'un, elle est essentiellement ordonnée, à l'égard de l'autre, elle est ordonnée de façon accidentelle. C'est aussi très important, je crois, cette chose qu'Aristote souligne ici. C'est qu'il nous montre que si le logos, donc si la raison, est au-delà des contraires, cependant la raison ne fait pas la synthèse des contraires. Vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose qui fait la synthèse des contraires. Quand vous avez les deux contraires, prenez l'exemple classique, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien, le point de vue de la santé et le point de vue de la maladie. Au point de vue des deux contraires, qui vous voyez l'accusation de Claudin dans l'autre. Hein? Alors, on peut dire que le logos est médecin, hein? Donc le logos est impliqué dans l'art médical. Le logos, la science médicale, est au-dessus des deux. Elle comprend les deux, la santé et la maladie. Mais cependant, il faut bien comprendre que le logos est ordonné essentiellement vers la santé et vers l'archidale de la maladie. Pas, et non pas directement vers les deux. Parce que là, ce serait ambivalent, ce serait l'âme de l'urgence, n'est-ce pas? Vous voyez bien, le médecin se demanderait qu'il doit donner ou qu'il doit, qu'on veut dire plus loin, n'est-ce pas? Si c'était ordonné également avec les deux, il y aurait toujours une ambivalence. Aristote supprime l'ambivalence, il n'y a pas d'ambivalence. C'est que le logos dépasse, il domine les contraires. Il est au-delà des contraires. S'il est au-delà des contraires, il les comprend parfaitement. Et il est orienté vers l'aspect positif, essentiellement, et pas vers l'aspect négatif. L'aspect négatif, ce n'est que Perachida. Donc ceci, c'est pour montrer comment la dynamique qui est rationnelle, qui implique le logos, est au-delà des contraires. Alors vous voyez tout ce que ça implique. Les contraires excluent le mouvement. Donc nous commençons à entrer dans le dynamique qui est au-delà du mouvement. Nous sommes partis de la dynamique qui est extrinsique du mouvement. Dès que vous avez une dynamique qui est au-delà des contraires, tout mouvement est entouré des contraires. Si le logos dépasse le mouvement, il y a vraiment une possibilité de comprendre par le point de vue de la dynamique rationnelle, une possibilité d'une dynamique qui reste une véritable dynamique, c'est qu'il peut, qu'il pourra être au-delà du mouvement. Mais je crois que c'est la raison. C'est la manière d'entrer dans le point de vue du dépassement du mouvement par le point de vue de la dynamique. Alors que la dynamique au point de départ est liée au mouvement. Comment dépasser le mouvement par la dynamique? C'est quand même toujours très important. De voir le dépassement du mouvement. Le dépassement du mouvement se fait ici par le point de vue du logos. Bon, voilà le premier moment. Alors, on va continuer. Alors, un petit intermède. Un petit intermède, c'est les mégariques. Un petit mot sur les mégariques, c'est très rapide, c'est le chapitre 3. Donc, nous avons terminé les deux premiers chapitres. Et nous en rentrons ici dans le chapitre 3. Alors, les mégariques, ce serait très intéressant. Un tout petit mot, fondé par un clip de Mégare, beaucoup, de pas 400, et celui qui est du temps de l'Aristote, c'est Diodore Cronos. Alors, les mégaristes sont socratiques et mélatiques. Donc c'est toujours ces écoles qui veulent se rattacher à Socrate et qui sont dans la lignée de Zénon, le point de vue de l'école de Zénon. Alors, ils appliquent d'une manière absolue le principe de non-contradiction. N'oublions pas ce principe de non-contradiction par les mégaristes. Et bien là, les mégaristes. C'est le principe de non-contradiction qui est la chose essentielle pour eux, car tout est déterminé. Si tout est déterminé, alors le possible n'est pas. Et je crois que c'est très intéressant de voir la différence entre les mégaristes et les stoïciens. Je vous mets ça au point de vue logique. Parce que la logique des stoïciens est extrêmement intéressante, et il y a une différence très opposée entre les deux, c'est que la logique des stoïciens sera la logique du possible, et la logique des mégaristes, c'est la logique au contraire du fait. Le stoïcisme. Alors voici ce chapitre 4 où Aristote, ce chapitre 3, je veux dire, sur les mégaristes, où Aristote va critiquer les mégaristes. Et pourquoi Aristote critique les mégaristes, vous voyez bien, c'est pour montrer que le possible, je ne dis pas existe, on va dire que le possible est, mais que le possible peut être. Bon. En tant que possible, si vous dites que le possible est, vous le définissez comme possible. Le possible peut être. Alors il faut montrer que le possible a un statut métaphysique. métaphysique qu'Aristote. Le statut métaphysique du possible, qu'Aristote va légitimer en face du négatif. Et comme nous sommes dans le point de vue de la dynamique, vous voyez le point de vue, le moment où ça arrive, nous avons dit que grâce au logos, la dynamique pouvait dépasser le mouvement et pouvait atteindre l'être. Dès que la dynamique s'atteint l'être, nous sommes en face du possible. Le possible, c'est l'aspect de la dynamique au niveau de l'être. Vous voyez que ce chapitre 3 arrive juste au moment où il s'agit des temps de possible. Parce que comme on voit que la dynamique peut dépasser le mouvement grâce au logos, c'est une dynamique liée au logos qui dépasse les concepts et donc dépasse le mouvement. Et donc, nous sommes arrivés en face de ce que représente le point de vue du possible, c'est-à-dire le point de vue du possible, le plan métaphysique. Donc, c'est nécessaire de regarder cela. Il prétend qu'on peut seulement quand on lèche. La dynamique n'existe que dans les yeux. L'architecte, c'est quand il exerce, quand il construit, il est architecte. Quand il ne construit pas, il dort en tant qu'architecte, et donc il n'y a pas de pouvoir, il n'a plus de dynamique. Autrement dit, ce n'est que quand vous exercez une chose que vous pouvez cette chose. L'exaltation de l'efficacité. C'est une philosophie d'efficacité pure. C'est une philosophie de l'existence d'être pure, ou d'efficacité pure, du facere dans l'exercice. C'est la philosophie d'exercice. Donc, par exemple, qu'on peut seulement se prendre en échec. Par le fait même, négation absolue de la dynamique, du possible, de l'art, et affirmation de l'exercice et de l'existentiel. Et du côté de la connaissance, on arrive à dire aussi, pas de qualité sensible, mais uniquement le sentir et la connaissance. La qualité sensible, c'est ce qui peut être connu, c'est ce qui est capable de connaître. Donc c'est du côté de ce qui est capable d'être connu. Alors le capable d'être connu peut être supprimé, parce que c'est un peu. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Donc on voit très bien cet aspect qui supprime tout ce qui représente le point de vue de l'humain et le point de vue du possible pour ne regarder que l'exercice et l'aspect existentiel. Mais alors, Aristote souligne tout de suite les inconvénients. Comment acquérir l'art? Comment le redécouvrir? Et ainsi de suite, c'est une possibilité, car c'est très facile à comprendre, c'est une impossibilité, parce qu'on voit très bien qu'on est là à quelque chose d'absolument impossible. Et il montre surtout ceci appliqué à l'opinion de Protagoras. Ça, c'est très intéressant. Ceci appliqué à l'opinion de Protagoras. Et vous comprenez pourquoi. Parce que s'il n'y a plus de qualité sensible, il n'y a plus de la sensation. C'est la sensation qui mesure tout. Donc, Protagoras. S'il n'y a plus d'objet, s'il n'y a plus de possible, il n'y a plus d'objet. Donc, il n'y a plus que l'art de connaissance. Et l'art de connaissance mesure tout. Donc, on a appliqué à Protagoras. Et il affirme, et bien entendu, aucun être, dans le chapitre 3, aucun être ne possédera de sens s'il ne les exerce pas actuellement. Donc, suppression des sensations comme faculté, comme tout neuf. Donc, si nous appelons aveugle l'être qui ne voit pas, bien qu'il soit dans sa nature de voir à un moment donné, et quand il existe encore, les mêmes êtres seront appelés aveugles et sourds plusieurs fois par jour. La position si vous l'avez encore celui qui ne voit pas, celui qui ne peut pas voir. Or, de fait, dès que vous ne voyez pas, vous ne pouvez plus voir. Il n'y a pas de pouvoir dans la vie. Fermez les yeux, parce que c'est voir, vous comprenez que votre indien est l'impossibilité à laquelle on est. D'abord, elle est l'aide, c'est un peu intéressant à voir l'application. De plus, si tout ce qui est privé de puissance est impossible, ce qui n'est pas encore devenu sera dans l'impossibilité de vivre. On joue sur le point de vue du possible. Donc, on dit bien, ça, il va parvenir, c'est très très important. De plus, si tout ce qui est privé de puissance est impossible, ce qui n'est pas encore devenu sera dans l'impossibilité de devenir. Et on mentira si on prétend que ce qui est impossible de devenir existe ou existera, car impossible signifiait cela. Donc, les propos des philosophes suppriment le mouvement et la génération. Oui, c'est très sérieux. Ces gens qui peuvent être dans l'exercice pur suppriment le mouvement. Parce qu'ils suppriment la possibilité du mouvement. Alors qu'ils veulent regarder que le fait n'existe plus le mouvement. Si on ne veut pas admettre ses conséquences, il est évident que la dynamique et l'émerveillant pour autre. Vous voyez, c'est très clair. Tout ce qui arrive à l'ici reprend une analyse émerveillante. Donc, on apprend tout à fait différent, celui qui va le voir au chapitre suivant. Oui, il y a un petit texte comme ça, plus tard. Donc, nous montre que la position des égarés tente complètement la métaphysique de l'art. Je crois que c'est ça qui la métaphysique de l'attitude, donc 1047 A18, donc il est évident que l'animalisme et l'émerveillant sont autres. Vous voyez bien, enfin, c'est ça que je vous ai à comprendre. La position des égards est une position qui supprime toute possibilité de la métaphysique de l'art, parce qu'elle supprime la puissance. Elle ne regarde que le fait, et elle ne peut qu'appeler une description. Il n'y a plus d'analyse. Vous ne pouvez plus analyser et donc vous ne pouvez plus comprendre ce que c'est que la génétique. Si vous ne pouvez plus comprendre ce que c'est que la génétique, vous ne pouvez plus comprendre ce que c'est que l'art. Or, les logos de ces philosophes, donc les discours de ces philosophes, identifient une analyse émerveillante. Ces philosophes n'arrivent pas à distinguer puissance et art. Ce qu'ils cherchent à décrire n'est pas une chose. Si vous supprimez la distinction de la humanité et de l'émerveillant, vous faites quelque chose de catastrophique. Parce que vous savez, alors l'impossibilité de comprendre, de saisir et d'analyser. Il arrive donc qu'une chose, donc après avoir montré ça, que cette position d'égarité est une position extrêmement dangereuse, qu'elle supprime toute analyse, et donc elle supprime toute la métaphysique possible de point de vue de l'acte de puissance. Il arrive donc qu'une chose est la puissance d'être et ne croit pas. Ça, c'est la réponse aussi directe d'Aristote au Légalisme. Il arrive qu'une chose est la puissance d'être et ne soit pas. Il arrive, ou au contraire, il est la puissance de ne pas être et de soi. De même pour les autres catégories. Il a la puissance de marcher et ne marche pas, et que ne marchant pas, il est le pouvoir de marcher. Ceci est possible. À qui rien ne sera impossible quand il existe là. Donc, il est avoir. Alors, ça, cette définition du cosmique que nous retrouvons plus loin, c'est une définition extrêmement forte, car il se fait aussi déjà ici, qui défend le point de vue du cosmique. Alors, nous avons cette définition du possible. Ceci est possible, à qui rien ne sera impossible quand il existe l'acte dont il est dit avoir la puissance. Oui, ça, c'est la définition même du cosmique. Autrement dit, vous ne pouvez définir le cosmique qu'à partir de l'acte. Vous ne pouvez pas définir le possible en dehors de ça. Comment voulez-vous définir le possible et l'impossible en dehors de là? Alors c'est pour ça que la définition du possible, elle est très très précise, pour ça que l'armée aussi, elle est très très nette. Ceci est possible à qui rien ne sera impossible quand il existe l'acte dont il est dit avant la puissance. Alors, Aristote termine ce chapitre, voyez donc, il donne la définition du possible en face de l'égaré, il refuse le point de vue du possible, et alors il fait cette remarque. C'est intéressant, mais c'est une remarque d'ordre de définition de l'art, si vous voulez que nous allons nous orienter vers l'art. Le mot d'art, donc c'est la fin du chapitre 3, le mot d'art se rapporte à Empelekeia. Le mot Empelekeia se rapporte à Empelekeia. Et je vais vous faire deux mots pour que vous puissiez comprendre. En fait, ici, il y a un parallélisme à bien voir, qui ne préciserait pas très très fort, on aurait mis. Et le délai, c'est là. On aurait fait ici qu'Aristote fasse un petit peu de Heidegger. C'est-à-dire qu'il fasse un peu d'étymologie entre les deux pour que nous comprenions bien ce mot et le délai. Donc, énergéga et le délai. Le mot d'acte se rapporte à énergéga. Il y a un lien entre les deux. Le mot d'acte s'est étendu à d'autres, principalement à partir du mouvement. Car il semble que l'acte est avant tout la kinésie. Donc, l'émerveillant, Aristote dit que l'émerveillant est malissant, avant tout, kinésique. L'émerveillant est avant tout mouvement. Ça, c'est quelque chose qui vous aura à dire, c'est intéressant à souligner. La kinésique, l'émerveillant, c'est étendu à l'eau, principalement par le mouvement, car il semble que l'acte est malista. Alors, malista, je crois que l'entendre, pour nous, par rapport à nous, Réfléchissons-nous en premier lieu ce que représente l'énergie, c'est dans la kinésie. C'est à partir du mouvement que nous saisissons en premier lieu ce que c'est que l'art. Nous ne pouvons pas saisir l'art en dehors du mouvement. Quoi non, pour nous, on ne peut pas saisir l'art en dehors. C'est pourquoi ces philosophes disent que les noms sont indéfinissables et les miracles. Les noms qui sont nus. C'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question des honnêtes et d'Aristote, c'est un lieu intéressant, parce qu'Aristote tout dit ici que les honnêtes sont intelligibles et désirables, mais les honnêtes ne sont pas nus. Vous pouvez dire que certains honnêtes sont intelligibles, donc une certaine intelligibilité, vous les pensez. Dire ceci n'est pas, ceci est honnête, donc vous pensez que c'est intelligible. Il faut dire que c'est désirable d'une certaine manière, mais vous ne pouvez pas leur qualifier le mouvement. Vous ne pouvez pas dire que le non-être est juste. Le non-être n'est pas pur. Le non-être est incapable d'être pur. Parce que le mouvement, c'est là. Et le non-être n'est pas là. Car parmi les non-êtres, certains sont en puissance. Alors c'est là où on comprend. Ces non-êtres qui sont intelligibles et désirables, ce sont des êtres en puissance. Et l'être en puissance, d'une certaine manière, est un non-être. Je crois que c'est très important de saisir cela, parce que la question du bonheur est très importante dans la philosophie contemporaine. Donc, c'est un élément, c'est important. Et donc, c'est intéressant de saisir quelque chose qu'Aristote souligne d'une façon très précise. Il dit, à partir de Mégarite, c'est ça, il dit que il y a des honnêtes. Alors, il y a des honnêtes qui sont intelligibles et désirables. Parce que le non-être s'oppose évidemment à l'être, et la puissance s'oppose à l'être aussi. Être en puissance, ce n'est pas être en art. L'être est parfaitement être quand il est en art. Donc la puissance, c'est d'une certaine manière un non-être. On peut dire que la puissance, c'est du non-être. C'est du non-être en art. C'est très important de voir ça. Comme pour Heidegger, si vous voulez, la négation de la détermination pourrait être néant. On voit très bien que toute détermination est une manifestation dont il faut opposer les deux. Alors nous retrouvons quelque chose de semblable. C'est pour ça que je dis que ma manière de penser, c'est très intéressant de voir la chose. Nous retrouvons quelque chose de semblable. C'est que, d'une certaine parmi les monnaies, certains sont en puissance. Pourquoi? Parce que être en puissance, c'est la négation de l'être en acte. Si c'est la négation de l'être en art, c'est donc être non-être. Donc parmi les non-êtres, certains sont en puissance, mais ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas en intellectuel. Donc, ils sont en puissance et pourtant ils ne sont pas au sens fort parce qu'ils ne sont pas dans l'art. Ils ne sont pas intellectuels. Ils ne sont pas dans un état intellectuel. Alors regardez ici, je pense que c'est le premier moment où nous rencontrons l'énergéia et l'intellectéia. Regardez ici la manière dont Aristote se sert de l'énergéia et l'intellectéia. C'est très intéressant, parce que le fait, il est deux dans le quotidien. Nous voyons donc qu'il commence par montrer qu'il y a un lien entre l'énergéia et l'intellectéia. Il montre que la kinésie, le mouvement, c'est l'énergéia. Et quand il s'agit du non-être, pour essayer de montrer comment le non-être ne possède pas l'art, il prend l'intellectéia. Comme on dit, le non-être, c'est une non-perception de l'art. Puisque le non-être ne possède pas l'art, on prendra l'intellectuel. Donc je n'insiste pas plus que ce que je dis, c'est trois, c'est intéressant dans le système, ce que nous avons sur Aristote relativement, c'est lui qui est intéressant dans le système, tout ce qui s'intervient. Chapitre 4, alors nous allons continuer à voir la diversité de ce que représente le point de vue du possible et de l'impossible. Nous allons entrer très nettement dans quelque chose de beaucoup plus serré comme analyse, le point de vue du possible et de l'impossible. Le chapitre 4, le début est facile, la seconde partie du chapitre 4 est de l'ordre. Il faut l'avoir lu avant parce que c'est très important, c'est important, non, c'est pas très important, mais c'est intéressant. Pour essayer de saisir ce que représente le point de vue du possible. Alors, je prends tout de suite le début du chapitre 4, c'est mon corrigé. Si le possible, dit la donc, si le possible est autant qu'il résulte, alors c'est une formule extrêmement dense de Paris, qui est intéressante. Donc, il reprend la définition qu'il a donnée tout à l'heure, c'est possible. Donc, le possible, dit la donne. Toujours, on parle que d'une année et d'une année. Tout seul, c'est possible. Donc c'est la dynamique transposée au niveau de l'être. La dynamique transposée au niveau de l'être, c'est la dynamique. Alors, si le possible est en tant qu'il réside, ou est à commentaire, en tant qu'il suit, en tant qu'il est à côté, c'est parce que toujours le possible est, on peut dire que le possible est dans la mesure où il a tué. Non, il n'est pas tué. Donc, en tant qu'il réside. On ne peut pas dire autrement. Alors, il y a là une formule très dense, à la manière d'Aristote, une formule très très forte, où il y a le est à commentaire, en tant que. Donc, si le possible est en tant qu'il réside, il est évident qu'on ne peut pas affirmer avec vérité que telle chose est possible, mais ne sera pas. Il ne faut pas dire que telle chose est possible, ne sera pas, il ne faut pas affirmer sa vérité. Parce que si elle est possible, c'est-à-dire qu'elle est possible, elle peut être. Hein. On ne peut pas dire qu'elle est possible, elle ne sera pas. Le mauvais besoin, c'est possible, mais ne le sera pas. Je t'assure que je ne le sera pas. De ça, on ne peut pas dire, si je suis pas possible, hein, que ça reste ouvert. De ça, s'il y a des choses impossibles, de sorte qu'il y ait des choses impossibles qui nous échappent. La conséquence est nécessaire. Si nous supposons l'existence actuelle ou passée d'un être qui n'existe pas, mais est possible, rien ne sera possible. Il n'y a pas d'identité entre erreur et l'impossibilité. Car que tu sois actuellement debout, ce qui est faux, ce n'est pas un possible. Vous voyez, cette petite argumentation du chapitre 4 sur le point de vue du possible et le point de vue de l'impossible, et en même temps sur le point de vue de l'erreur et de l'impossibilité. C'est très intéressant. Très intéressant au point de vue logique. Hein. Et au point de vue de cette caractéristique, au point de vue dans le livre de l'interprétation. C'est pour essayer de bien comprendre. Parce que tout ça, c'est pas chez Platon et chez les autres. Tout ça est bloqué. Alors, ça, ici, essaie de montrer ce qu'il y a de particulier dans le domaine du possible et l'impossible est le domaine de la vérité, le domaine de l'erreur. Il faut quand même bien distinguer les deux. Le domaine du possible et le domaine de l'impossible vont avoir comme une espèce d'aspect fondamental qui va échapper à l'erreur et à la vérité. Le possible est une vraie chose. Il est possible. Il continue à
l'entendre. 25e cours.
Alors, nous étions au chapitre 4, si vous vous rappelez bien, je vais aller très rapidement sur le chapitre 4 et le chapitre 5, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est parce que le chapitre 6 est beaucoup plus important, le chapitre 8 également. Alors, je crois qu'il faut quand même aller assez vite sur ce chapitre 4. C'est toujours donc dans cette recherche de ce que représente la dynamique, hein, c'est-à-dire la puissance. Et il faut bien voir le but et l'intention d'Aristote en regardant ces diverses modalités de la puissance pour comprendre que la puissance se donne à nous selon ces diverses modalités. Alors, il avait déjà touché le dunaton, le possible, si le possible est, en tant qu'il résulte. Il est évident qu'on ne peut pas affirmer avec vérité que telle chose est possible, mais ne sera pas. C'est ce que j'avais souligné la dernière fois, et je crois que c'est très important. Nous allons revoir, parce que c'est un des aspects sur lesquels Aristote insiste beaucoup. C'est que le possible, donc si le possible est en tant qu'il résulte, c'est que le possible ne peut être saisi que par là. Vous ne pouvez pas saisir un possible avant là, au plan métaphysique. Je parle du possible au plan métaphysique, pas le possible logique. Le possible logique a sa propre intelligibilité en lui-même. Et je prends le possible, donc métaphysique, il peut saisir qu'à partir de là. Donc, si le possible est en tant qu'il résulte, peut-être que de cette manière-là, il est évident qu'on ne peut pas affirmer avec vérité que telle chose est possible, mais ne sera pas. De sorte qu'il y ait des choses impossibles qui nous échappent. Alors, la conséquence immédiate, la conséquence nécessaire, si nous supposons l'existence actuelle ou passée d'un être qui n'existe pas, mais est possible, rien ne sera impossible. Donc cette petite considération sur le possible, sur laquelle encore une fois il reviendra, lui permet de dire il ne faut pas identifier l'erreur et l'impossibilité. Et je crois que c'est important à noter, c'est sur un idée. Car tu sais, car que tu sois actuellement debout, ceci est faux, mais ce n'est pas impossible. Si Socrate est assis, n'est-ce pas? Et quand nous sommes tous assis, nous sommes tous Socrate.
n'est-ce pas, par le fait même. Si tu es debout, si je dis que tu es debout, c'est une erreur, mais ce n'est pas un petit. Donc il faut bien distinguer l'erreur et l'impetit. Et par le fait même, ceci montre bien le fondement de ce que représente le point du lundi. Et alors à partir d'ici, je vous lis le texte, je ne veux pas le commenter beaucoup, mais c'est simplement parce que c'est important de l'avoir au moins un peu lu et entendu une fois. Et nous essaierons de voir ce que ça signifie dans la perspective d'un peuple. C'est intéressant à étudier, je pense, parce que c'est un point de vue précis des rapports entre le point de vue possible et l'impossible. Aristote va essayer de saisir les liens entre les deux. En même temps, il est manifeste que si l'existence de A entraîne nécessairement l'existence de B, A étant possible, nécessairement B est possible. Car s'il n'est pas nécessaire que B soit possible, rien n'empêche qu'il ne soit pas possible. Supposons précisément A possible, donc quand A peut exister, et si A est posé, aucune impossibilité n'en résulte. Alors B nécessairement existe. Pourtant, c'était impossible. Donc j'espère que vous suivez, comme ça vous êtes en marche. Supposons donc B impossible. S'il est nécessaire que B soit impossible, il est nécessaire que A le soit aussi. Étant donné les liens qu'on a mis entre A et B au point de départ. Donc il y a une dépendance entre les deux, un est impossible, l'autre nécessairement est impossible. Il y a une conséquence. Mais si A était supposé possible, donc les B l'est aussi. Par conséquent, si A est possible, B sera